carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
L'Académie des Beaux-Arts vient de reconnaître Vladimir Velikovitch comme l'un des siens. Une distinction qui consacre ce grand peintre contemporain de renommée internationale. Carrefour des Arts est heureux de l'accueillir dans son studio de Canal Académie. Vladimir Velikovitch, bonjour.
Bonjour.
Nous aborderons dans une première partie votre parcours, Vladimir Velikovitch. Vous êtes né juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en Serbie, à Belgrade, une région qui a traversé son lot de guerres. Et vous étiez écolier lorsque votre ville fut bombardée en 1941, bombardée et même très largement détruite. Alors, très tôt, la vision de la mort ne vous a pas été épargnée. On ne sera donc pas surpris de la retrouver tout au long de votre œuvre, d'autant que votre région en a connu d'autres depuis. On le sait, malheureusement. On ne sera pas surpris non plus que, très tôt, vous ayez été fasciné par l'imagerie de la médecine légale, par ces manuels d'anatomie montrant des dessins de corps écorchés et de corps autopsiés, autant d'images qui se seront imposées à votre premier univers visuel. Vladimir Velikovitch.
Il faut dire que, probablement sans rentrer dans des examens, explorations qui peuvent être du domaine de la psychanalyse, il y a quelque chose qui jouait un rôle important dans la formation de ce qui était un monde d'un artiste, qui est d'ailleurs fondé en principe toujours très tôt, et depuis on l'exploite à une manière ou à une autre, en se basant sur ce qu'on appelle le vécu. Ce vécu était, bien sûr, un vécu d'un enfant. Et pour que je parle et je nomme cette psychanalyse, probablement j'aurais dû et j'aurais des propositions de voir d'où ça vient, tout ce monde qui n'est pas habituellement un monde que les beaux-arts, la peinture, qui en principe doit être quelque chose d'agréable, de décoratif, de reposant, m'a toujours fasciné et j'ai emporté de cette enfance, probablement je dis, quelque chose qui était un bagage violent, un bagage cruel, un bagage destructif et un bagage qui était lié notamment à la mort, bien sûr, et toutes sortes de souffrances, la torture, les violences. Bien sûr, à l'époque, quand les faits se sont produits, j'avais à peine 6 ans. C'est-à-dire, on peut pas, à cet âge-là, je suppose, comprendre de ce qui se passe effectivement dans la réalité, dans cette vie quotidienne qui a été quand même accompagnée par ce genre d'événements. Je vous dis, c'est une base sur laquelle, peut-être malgré moi, j'ai construit mon parcours symbolique, esthétique, pictural jusqu'à maintenant. Ça m'a pas quitté. Et j'avais, au fil de temps, une sorte presque d'obligation, de droit, de répondre à ce genre d'événements. Il est vrai qu'ils ont cessé en 44-45, mais qui ont été, depuis, aussi présents dans différentes parties de la planète. On connaît les événements qui sont d'une violence extrême et qui se produisent à travers le monde. Et pour ce qui est une réalité encore une fois répétée, dans les Balkans exposés particulièrement à ce genre d'événements, en 99, il y avait peut-être une répétition avec des moyens différents, bien sûr, plus sophistiqués, plus meurtriers, mais il y avait cette ville de Belgrade qui était en 99 encore bombardée par ce qu'on appelle les Alliés.
Oui, mais on y viendra peut-être un peu plus tard au cours de notre entretien. Mais pour l'instant, essayons de suivre un petit peu votre parcours, donc votre enfance et votre petite enfance même est fortement marquée par cette situation en Yougoslavie, comme on disait à l'époque. Très tôt, on découvre, même à l'école, que vous êtes artiste. Vous faites des dessins un peu partout, j'imagine. Et on signale que, enfin à vos parents, que votre fils est vraiment très très doué. Et on pourrait dire que vous avez le dessin dans les mains. Mais évidemment, il est difficile de faire l'apprentissage du dessin, de la peinture, comme dans un pays en temps de paix. Donc, dans ces régimes tourmentés de violence, c'est très très difficile. Alors, le jeune Vladimir ne recule pas devant la difficulté. Il se jette sur toutes les reproductions qu'il peut trouver pour nourrir ses inspirations. Il se jette sur des peintres comme Dürer, Goya, Rembrandt ou encore la peinture française aussi, des Courbet, Ingres, Delacroix. Tous ces peintres feront donc vos références picturales dans ces temps-là. Alors, comment et dans quelles conditions avez-vous vécu leur découverte?
J'avais la chance d'avoir sous la main, dans la bibliothèque de mes parents, certains livres qui n'étaient pas de cette qualité qu'on a aujourd'hui dans des monographies de toutes sortes. C'était les livres, il faut dire que je viens d'une famille, disons, des intellectuels, disons des bourgeois aussi. Mon père était professeur à l'université, l'académicien aussi.
Et les grands-parents médecins?
Les grands-parents...
Il était académicien?
Serbe. De l'Académie serbe des sciences et des arts, dont je suis membre aussi, mais là, on a doublé l'académisme. Tout en étant petit, j'avais un intérêt pour le dessin. J'ai fouillé dans ses livres, j'ai regardé de très près. J'ai été encouragé par l'entourage qu'il y avait dans la maison. On regardait le petit dessiné plus que les autres. J'étais meilleur que les autres à l'école. Et puis, il y avait quand même quelques signes de... quelque chose qui pourrait être dirigé vers un métier d'artiste. Ce que vous avez nommé comme peintre de l'histoire, j'avais quand même un instinct, une sorte de chance aussi d'être tombé sur ces gens-là et que je considère comme mes professeurs.
Dans la bibliothèque familiale, il y avait quand même déjà quelques
après,
livres.
Après, on m'a apporté des livres parce que le petit s'intéressait à ça et tout. Bon, à l'époque, comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand-chose dans les années tout de suite après la guerre. Et puis, j'ai commencé activement, parallèlement aux études, au lycée, de dessiner. Et puis souvent, le dessin remplaçait les jeux d'enfants. Et c'était devenu déjà une voie parallèle. Bon, j'étais conscient, il faut quand même terminer ses études. Mon père, qui était un homme pied sur terre, il était ingénieur, il était quelqu'un qui voyait en moi, étant fils unique, quelqu'un qui devrait quand même s'équiper de quelque chose de plus
sérieux,
de plus utilisable dans la vie. Et bon, on a fait un petit accord, une sorte de compromis que j'ai fait avec lui. Je pense pas que c'était un mauvais compromis parce qu'il y avait une possibilité de terminer dans une école des beaux-arts à Belgrade avec les conséquences qu'on peut pas prévoir et j'étais un peu laissé à moi-même avec cet intérêt surtout pour le dessin d'avoir quand même une activité à part. J'ai exposé déjà à 16 ans la première fois.
Et en 51,
En 51, j'ai fait cette bifurcation, si on peut dire, par les études d'architecture que j'ai terminées, j'ai diplômé. Je suis en fait un ingénieur architecte.
Et quel diplôme ? Je crois qu'on vous a confié un vaste projet d'architecture et d'urbanisme.
Non, j'ai fait mon diplôme avec, comme vous dites, un vaste projet d'architecture et d'urbanisme, toute une ville.
C'est tout de même impressionnant. Et papa devait être très heureux.
Papa était très content. J'avais les félicitations de jury. Vous savez, tant qu'à faire, faire bien.
Oui.
Et je pense que j'aurais pu être un bon architecte si j'avais consacré ma vie, ma carrière à l'architecture. Je m'intéresse toujours d'ailleurs, mais il fallait choisir. Une fois le diplôme obtenu, c'était fini. Je suis parti de Belgrade pour m'isoler complètement, pas loin, mais dans un autre milieu, dans la ville de Zagreb, où je faisais partie.
En Croatie.
Ça a été la Yougoslavie à l'époque, la regrettée Yougoslavie. Et j'ai passé un an avec cette idée de voir ce que je peux faire avec moi-même. Oui. C'est-à-dire complètement coupé de cocon familial, d'être seul dans un lieu où je ne faisais oui. que peindre et dessiner.
Vous faites votre exposition à 16 ans, votre première exposition de dessin.
Oui,
vous faites en parallèle donc des études de sculpture et d'architecture.
Non, pas de...
Vous vouliez être sculpteur.
Oui, mais aussi. C'était déjà quand j'avais 6-7 ans. Dans un devoir d'école, j'ai dit
très
que
précoce.
Je voudrais être
oui.
sculpteur, sans D'accord. vraiment savoir ce que c'est. J'ai fait quelques petites terres cuites comme ça.
Oui.
Mais ça a été déjà une idée. Je ne voulais jamais être ni pompier, ni docteur,
mais
ni ingénieur,
artiste.
Mais c'était ça. Ça rentrait déjà. Et puis la sculpture reste, malgré certaines tentatives, la grande frustration de ma vie.
Vous accomplissez vos études d'architecture brillamment, avec le diplôme et avec le projet qu'on vient de voir, qu'on vous a confié. Et puis, en parallèle, il y a toute l'évolution de l'artiste. Par exemple, à partir de 51, vous aviez 16 ans, la Yougoslavie connaît un plein essor culturel de l'après-guerre. Et c'est notamment une période où les abstraits s'affrontent avec les figuratifs.
Oui, il y avait les périodes de crise, les périodes après ce genre de désastre. Ils sont, comme on connaît, assez fructueux au niveau de la créativité, de la création. Et il y avait une sorte d'explosion avec tant de privation de la créativité sur tous les domaines, autant en littérature, au théâtre, au cinéma. Et la peinture n'a pas passé outre cette grande dynamique de cette époque-là. Et surtout, parmi les jeunes, il y avait comme une sorte d'ouverture après une courte période de la domination idéologique de réalisme socialiste qui était la grande doctrine des pays de l'Est dirigée par l'Union soviétique qui a imposé un peu cet art-là plus ou moins officiel, mais bon, cet art-là n'a jamais donné
de
résultats terribles. Il y avait quelques tentatives, ça m'a pas concerné moi parce que j'étais trop jeune, mais la génération qui était un peu plus âgée que moi, c'était politiquement correct d'obéir un peu aux dictats du pouvoir. Mais ça n'a jamais été accepté, ça n'a jamais pris et très très rapidement les artistes se sont débarrassés oui. de ce genre de tendance imposée. Il y avait une petite période par certains artistes qui faisaient une sorte de mouvance, de mouvement et que les pouvoirs de l'époque ont taxé de vagues noires.
C'était le groupe Mediala ?
Oui, le groupe Mediala.
Un peu de réalisme fantastique ou quelque chose comme ça ?
Réalisme fantastique avec des bases classiques, mais avec un regard sur la réalité. C'était un groupe qui était assez intéressant. Maintenant, on le ressort à Belgrade avec un espace spécialement aménagé pour ce mouvement-là. Et c'était très intéressant. Ce sont des gens qui ont eu beaucoup d'imagination, qui était doté d'une culture remarquable, qui écrivait aussi. Il y avait 2-3 architectes dans ce mouvement-là. Et ce groupe-là a été, ce que vous avez mentionné, confronté à une deuxième vague de l'abstraction qui est arrivée là par l'influence, bien sûr, qui venait de l'Ouest.
Et on peut penser à Graham Sutherland, par exemple, ou même à Francis Bacon, dans les figuratifs, alors que le Cobrin...
Mais ni Francis Bacon ni Sutherland n'étaient pas connus à l'époque à Belgrade. C'était des gens, plutôt, qui ont fait des premiers voyages à l'étranger et qui ont quand même amené un concept différent de ce qui était ce réalisme socialiste. Et il y avait quelques
bien
expositions
sûr.
Qui ont marqué un peu cette période-là, et qui a été repris par des plus jeunes, et il y avait cette confrontation que je considère assez positive et utile. Il y avait ces deux mouvements qui se sont confrontés, chacun dans son idéologie, dans son concept de l'art, et ça dynamisait forcément ce climat créatif, notamment à Belgrade.
Oui, je crois que vous avez fait une autre rencontre déterminante. Enfin, il y en a plusieurs qu'on peut déceler dans votre parcours, mais la rencontre avec un grand peintre yougoslave, Christo Egeduzic, si je prononce correctement, le fondateur du groupe Cerulia, La Terre.
Ouais.
La situation en Yougoslavie à cette époque était quand même en effervescence.
Bon, il y avait cette explosion après-guerre,
oui.
ça commençait à tourner, même au niveau économique, il y avait reconstruit le pays et tout ça. Et cet exil à Zagreb, ça a été chez ce peintre-là qui dirigeait une sorte d'atelier d'État qui était une sorte de master, ce qu'on peut appeler maintenant, qui était un lieu qui était financé par l'État où il y avait des conditions de travail. C'est là où je me suis réfugié.
Un workshop, comme on dirait aujourd'hui?
Oui, un workshop. Ce Krzysztof Hegedušić, qui était une sorte de fondateur aussi de cette célèbre école naïve de Chlebine, parce qu'il était de Chlebine. Dans ce village-là, il y avait toute une tradition de peinture naïve qui était très bonne et qui a fait quand même long feu en Occident parce que ça a été quelque chose de très, très représentatif, très au point, tout ça. Mais ce Krzysztof Hegedušić, qui était professeur à l'Académie de Zagreb, lui, il dirigeait cet atelier, pas avec un discours pédagogique ou autre, il dirigeait ça. Tout simplement, c'était une stature dans la Yougoslavie, un peintre renommé. Il dirigeait ça, on lui a confié cette institution de
et
la
il
diriger.
Il laissait une totale liberté totale aux liberté. Artistes, et totale, c'est ça qui fait évidemment éclore et là, les grands talents.
Oui, j'ai découvert ce personnage qui était peintre aussi, un très bon peintre, et lors d'une exposition de cet atelier d'État à Belgrade. Et là, j'ai compris que tous les gens qui faisaient partie de cet atelier étaient des individus. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de la main du professeur, pédagogue. Non, il était déjà des gens qui sont sortis de l'école des Beaux-Arts de Zagreb, mais il était complètement chacun un individu, un personnage avec sa personnalité, avec son originalité. Et là, ça m'a paru quelque chose d'intéressant. Il n'y avait pas un climat d'une école dirigée par quelqu'un. C'est-à-dire, c'était libre, ouais. Ouvert.
C'était
et
le...
je suis parti là. Et j'ai passé une année, comme je vous ai dit, pour voir ce que je peux faire avec moi-même et avec cette idée de la peinture et du dessin que j'avais déjà entamé à Belgrade.
C'était le loft artistique.
C'était très, très, très bien. J'étais particulièrement encouragé par ce même Hegedušić qui m'a laissé la liberté complète. Et les situations sont quand même présenté, j'ai été repéré par des gens qui s'occupaient des arts plastiques, j'étais envoyé déjà dans des expositions à l'étranger représentant la Yougoslavie.
Oui.
Et maintenant, c'est parti pour 50 ans.
Mais
après.
Attendez, laissez-nous le temps de vous découvrir quand même époque par époque. Parce que là, on est à peu près dans les années 60, si je
60,
suis bien.
Ouais.
Voilà. Donc, vous aspirez, comme vous l'avez évoqué, à quitter la Yougoslavie. Et votre notoriété naissante avec les premières récompenses vous engage évidemment à connaître et voire à conquérir un monde plus large. Alors, laissez-nous le temps de faire les valises et nous allons nous accorder une pause musicale. Votre choix se porte tout naturellement sur la musique slave. Et j'ai trouvé, par exemple, Peter Ilyich Tchaïkovski, pour vous plaire. Et que diriez-vous du premier concerto pour piano et orchestre avec l'immense, l'inégalé Sviatoslav Richter? Ça vous va?
Parfait.
C'était Sviatoslav Richter dans le premier concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski avec Herbert von Karajan qui dirigeait les Wiener Symphonica. Nous reprenons notre entretien avec Vladimir Velikovitch qui vient d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts. Nous en étions aux années 60. Votre notoriété est sur le point de dépasser les frontières de la Yougoslavie, frontières que vous-même vous décidez de franchir. Alors, comme souvent, c'est une rencontre qui marque une nouvelle étape. Nous avons déjà vu d'autres rencontres qui étaient déterminantes dans votre parcours. Mais là, cette fois-ci, c'est en la personne de Georges Boudaille, qui est alors critique d'art aux lettres françaises, que vous rencontrez, je crois, à Belgrade, et qui aura été, en quelque sorte, votre ange annonciateur ou votre ange gardien.
La rencontre s'est faite avec Georges Boudaille, qui était envoyé de la part d'un journal communisto-socialiste frère qui était Les Lettres Françaises, dirigé par Aragon. Et il faisait une visite à Belgrade, de différents ateliers. Il a particulièrement apprécié mes dessins, qui me paraissaient, quand je les regarde maintenant, le début de quelque chose de plus sérieux. Et ce même Georges Boudaille, comme il a probablement dit à tous les artistes qu'il a visités, si vous venez à Paris, téléphonez-moi, tout ça. Puis, moi, j'ai pas oublié, j'ai noté son téléphone. Entre-temps, j'avais une bourse de séjour de quelques mois en Belgique. J'ai demandé Paris, mais on m'a donné Bruxelles, mais c'était pas loin. C'était beaucoup plus loin que maintenant, mais ça m'a permis de faire des voyages fréquents à Paris. Et j'ai appelé Georges Boudaille. Georges Boudaille m'a dit, tout à fait gentiment, va de regarder les galeries à Paris, si quelque chose m'intéresse, que je lui téléphone, et puis il verra ce qu'il peut faire. Et le hasard a voulu, c'est encore le hasard ou la chance, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai passé par la galerie du Dragon, rue du Dragon, qui n'existe plus malheureusement, et je me suis trouvé un peu en présence des gens jeunes, avec sur les murs des peintures et des dessins qui m'intéressaient. Et tout de suite, j'ai appelé Georges et qui m'a dit « Ah, ça tombe bien, je connais le directeur de la galerie ». Et puis, il m'a organisé un rendez-vous.
C'était quel style de peintre ?
C'était plutôt surréalisant. Avec Max Ernst, Brauner, ah oui. Dali aussi, Mata, il y avait quelques jeunes américains, Cremonini, il y avait quelques sculpteurs aussi, Pietro Calascella, Ichili. J'ai vu ça probablement avec un peu trop de prétention, mais que je serais bien dedans. Ce rendez-vous a été fixé, je suis venu de Bruxelles avec un rouleau de dessins, je les ai déposés là, et je suis parti vite fait en disant « je reviendrai dans 15 jours ». Et dans 15 jours, je suis revenu et la directrice de galerie m'a dit que ça leur plaisait beaucoup, que je pourrais laisser ces dessins, ils vont s'en occuper et puis bon, fil en
et
aiguille.
Et quel genre de peinture vous faisiez à cette époque-là?
J'ai apporté les dessins uniquement, c'était des dessins. Cette figuration-là, c'était des dessins à l'encre, c'était une thématique...
De la violence, oui, des corps déchirés.
Dès le départ, ça a été quand même mis en place.
La signature, votre signature, ouais. Oui.
Bon, je ne sais pas à quel point c'était ma signature déjà. Bon, il n'y avait pas d'équivalent. C'était un dessin pur et dur que j'ai quand même appris chez ces messieurs-là de la Renaissance. Je pense que Paris est resté un grand centre artistique avec quelques aménagements à faire.
Du bien à me le dire, parce que vous connaissez ça sûrement mieux que moi en tant que piste.
En tout cas, ça a été ce deuxième démarrage dans ma vie et je me trouve ici maintenant avec ce passé déjà qui est assez long et qui m'a dit et qui m'a pas prédestiné à m'asseoir ici à cette table et de siéger sous cette illustre coupole qui est l'Institut.
Mais donc, dans les années 60, donc on vient d'évoquer toute cette belle période, Vladimir Velikovitch commence à se faire un nom au Parnasse, au bord de la Seine. Mmh. On vient de voir la Galerie du Dragon, le musée Cantini de Marseille achète déjà un grand tableau, le MoMA de New York acquiert 3 dessins, les critiques d'art commencent à s'intéresser à votre travail. Quel est pour vous le souvenir de cette période, de votre confrontation avec le public, puisque c'est tout de même la première fois que, en étant exposé dans les galeries, vous êtes directement confronté au public et qui résulte ultérieurement dans une certaine reconnaissance déjà.
Je me suis comporté comme si ça a été la chose la plus normale au monde. c'est prétentieux de ma part, mais déjà à Belgrade et dans d'autres lieux de Yougoslavie où j'exposais, le public était toujours au rendez-vous. Et cette fois-ci, avec mes premières expositions, il y était, mais différent, ce public parisien. Et avec ses premiers encouragements d'acquisition et de texte. C'est-à-dire, j'ai déjà tout de suite eu ce contact, bien sûr, avec Georges Boudaille, avec des textes dans les lettres françaises. Il y avait des critiques qui se sont intéressés à moi, comme Marc Le Bot, qui est professeur à la Sorbonne de l'histoire de l'art, d'Alain Jouffroy, qui est poète, romancier, critique d'art, de Gassio Talabo, qui était une sorte d'idéologue de la figuration narrative. C'est-à-dire, j'étais entouré déjà par des gens de qualité et qui m'ont quand même donné, par leur écrit, un coup de main. Et puis, avec toujours, c'est une banalité de dire, avec un doute, est-ce qu'il fallait faire ceci, est-ce qu'il fallait cela, j'ai suivi une sorte d'instinct. Parce que j'ai fonctionné toujours comme j'avais envie de fonctionner. Bien sûr, je vous dis, c'est toujours se poser la question. J'avais une énorme indépendance que je garde encore aujourd'hui. Jamais de compromis. Je l'ai fait, je vous ai dit, une fois avec mon père et ça suffisait. Et j'ai reculé devant rien. C'est-à-dire, j'ai suivi un parcours qui m'a été cher, si vous voulez. J'ai pas descendu d'une marche vers quelque chose qui pourrait être autre que ce que j'ai envisagé de faire. Dieu sait que ces images que j'ai faisées n'étaient pas des images du tout repos, ce n'étaient pas des images qui étaient, comme l'expression française disait, le plaisir pour les yeux. D'ailleurs, la première critique que j'ai eu dans ma vie et qui était de cette déjà lointaine date dans le texte en serbe, ça a été marqué en français. Ces peintures-là sont pas un plaisir pour les yeux.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu grâce au support artistique et financier, j'imagine, de la Galerie du Dragon qui vous a accepté parce que c'était pas vraiment un plaisir pour les yeux, j'imagine.
Oui. Ça n'a jamais été une peinture commerciale. Encore aujourd'hui, je ne vis que de cette peinture. J'ai jamais fait autre chose. Mais le travail, l'insistance et cette ambition de m'imposer avec ce que je fais, parce que je cache pas mes ambitions, parce que sans ambition et sans ce moteur qu'on a en soi et que je fais encore fonctionner aujourd'hui, et je pense le fonctionner jusqu'à la fin de mes jours, c'est quelque chose qui était gagnant. C'est-à-dire à tel point que finalement, le public a toujours avait ce commentaire « bon, c'est très bien, mais vivre avec », c'est une autre question. Et finalement, j'ai gagné. J'ai gagné parce que c'était…
Vous étiez même un peu à la mode à un moment donné, non?
J'étais jamais à la mode.
Non?
Non, je crois pas. Il y avait des séries, des cycles, des peintures et des dessins qui plaisaient mieux que les autres, mais c'était pas ni avec une préméditation. Je vous dis, je suis mon instinct, je fais des choses au fur et à mesure comme elles m'arrivent, de m'intéresser à des sujets, avec un sujet qui est primordial et qui est la figure, qui est le corps, qui est l'homme. Et son espace, c'est-à-dire sont deux éléments de base que je traite dans ma peinture et dans mes dessins, et j'ai jamais reculé devant la représentation qu'on peut considérer violente, agressive, et je pense que ça changera pas pour autant dans le futur.
Oui, j'ai trouvé une citation de vous, j'ouvre les guillemets, « J'ai toujours peint ce que l'homme est capable de faire à l'homme ». Et aujourd'hui, où en sommes-nous?
Ça continue, cette bestialité.
Et donc aussi dans votre peinture.
Cette férocité de l'homme par rapport à l'homme, c'est toujours présent. Il suffit d'ouvrir le journal, il suffit d'ouvrir la télévision. Il y a une documentation quotidienne abondante qui me donne le droit de me pencher sur ce problème encore et de le regarder de très près pour le faire voir.
Bien sûr. Une autre question, sans doute plus personnelle, mais que nos auditeurs souhaiteraient sûrement vous poser, depuis votre position dans votre atelier parisien. Comment avez-vous vécu la guerre en Yougoslavie dans les années 90? Par exemple, l'éclatement de la guerre en Bosnie?
Très douloureusement. Et je regrette cette explosion de la Yougoslavie, je regrette ce manque de clairvoyance qui nous a amené là où on est, le morcellement de ce pays qui est un beau pays avec des particularités très intéressantes, excitantes, les ethnies, les religions, les langues, et je pense qu'on était plus riche sur tous les niveaux, culturel, économique, sportif, créatif. On peut citer Tito, que tout le monde connaît, et qui a dit déjà à l'époque, ensemble, on est plus fort. Et c'était un homme qui a tenu tant qu'il a été en vie, et puis après, ça a été une explosion, chacun voulait son État. Avec ses indépendances, les Occidentaux ont aidé beaucoup à cette explosion-là, en reconnaissant la Croatie, la Slovénie, de la part des Allemands, à la part du Vatican, tout ça, ça a pris son chemin qui était un désastre total avec le développement des haines, des exterminations, des exils, des nettoyages ethniques, vraiment en pleine Europe, en 1990, de voir ce genre d'événement, ça a été pour moi impensable et pas uniquement pour moi, mais malgré tout, ça s'est produit.
Et vous l'avez donc vécu depuis Paris, c'est-à-dire à travers les reportages à la télévision, les journaux et les témoignages que vous rapportez là-bas.
J'étais en contact permanent, quotidien, avec mes amis, avec ma mère qui j'ai de la famille à Belgrade. Et j'ai été, je vous dis, informé et ça m'a fait beaucoup de mal.
On ne peut évidemment pas rentrer dans les détails politiques parce que ça demanderait au moins deux autres émissions. Mais juste peut-être une courte réponse. À quoi attribuez-vous cet échec de cette prise d'indépendance des autres ethnies ? Parce qu'on peut quand même comprendre que ça correspond à une évolution de notre modernité, disons de la démocratie, pour faire court et simple, que les Croates voulaient être indépendants, même les Monténégrins. Mais pourquoi cette souffrance, pourquoi cette violence, pourquoi ces guerres, pourquoi ce déchirement entre les frères?
Il paraît que c'est dans les mentalités, c'est dans la nature, c'est dans les caractères des gens. C'est pas la première fois que ça arrive. Bon, on peut prendre l'exemple des Tchèques qui se sont séparés avec les Slovaques
en
gamblant.
Oui.
Mais là, il y avait quelque chose qui a été brutal. Ça faisait partie de nos mentalités. On est comme ça et on a toujours des gens qui peuvent exprimer certaines volontés à travers ces gestes-là.
Et chez les Serbes, il n'y avait pas une volonté de domination ?
C'est très, très, très complexe et je pense que la Serbie qui quand même avait dans l'histoire et son État et son royaume et tout ça n'avait pas une telle frustration comme les autres parties de la Yougoslavie qui avaient quand même un statut dans l'histoire qui était plutôt un statut de dominé. Autant par les Austro-Hongrois, c'est quand même relativement normal que la Croatie, la Slovénie voulaient avoir un pays à eux seuls.
Oui.
Mais est-ce qu'il y avait une manière de se séparer avec cette idée qui était annoncée et avancée sur le principe de la Confédération suisse ou quelque chose? Mais il y avait quelque chose qui est lié à cette réaction.
C'était trop
passionnel. C'est passionnel, avec des bêtises des politiques, je vous dis. Mm. Ça allait très, très, très vite.
Aujourd'hui, le Kosovo risque de...
Le Kosovo, c'est une,
rencontrer
c'est une
les mêmes
question
problèmes.
Douloureuse pour la Serbie. On verra ce que ça va devenir. Mais il faut dire que à l'époque, il y a 30 ans ou 35 ans, les Serbes étaient majoritaires au Kosovo. C'est une domination démographique absolument démente. Toutes les familles au Kosovo ont 10 à 15 enfants, l'âge moyen de 22 ans. Et s'il n'y avait pas... Bon, on dit que Kosovo, c'est un berceau de la culture serbe. C'était
avec
là,
d'anciens cloîtres.
Les monastères qui sont vieux de plusieurs siècles, avec les fresques qui
un
ont
patrimoine
été détruites par les Albanais.
Oui.
Le patrimoine de la civilisation. Mais il faut voir, c'est la configuration, la disposition de ces monastères. Si c'était groupé, bon, la domination albanaise est telle de la population albanaise par rapport à la population serbe, on tire une frontière et puis on n'en parle plus. Mais ces monastères, ils sont tellement, tellement éparpillés sur la terre. C'est-à-dire maintenant, si vous allez au Kosovo, les monastères, c'est dès que vous voyez
des
chars des casques bleus, il y a un monastère qui est là.
C'est une situation terrible.
Qui n'est pas vivable. Et je ne sais pas comment les Occidentaux vont régler ce problème, parce que maintenant, tout se décide en dehors des frontières. Moi, je suis plutôt partisan que les peuples, qui, s'ils ont des conflits, qu'ils les règlent autant en Irak ou en Afghanistan qu'en Serbie et au Kosovo.
Mais il y a aussi deux civilisations complètement différentes.
Est-ce qu'on a intérêt de voir en Europe un pays musulman? Ça, c'est une autre affaire. C'est-à-dire, il faut demander les politiques. Mais en tout cas, ça sent pas bon et je trouve que il y aura quand même des problèmes avec le comportement des populations. Je pense pas qu'il y aura une guerre parce qu'on n'est pas encore censé se lancer dans ce genre d'atrocité, mais ça va être très 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 compliqué. Il faut prendre avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de diplomatie ça, parce que on peut pas.
Cette actualité, on est en train de.
On peut pas régler les problèmes à 10 000 kilomètres concernant ces populations-là, parce qu'il y a un vécu, il y a une histoire, il y a un passé, il y a une culture, il y a deux cultures. Les gens, forcément, ils comprennent pas ça, surtout pas ceux qui sont au-delà de l'océan là.
Nous arrivons au terme de la première partie de notre entretien avec Vladimir Velikovitch, qui vient d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts. Cette partie était consacrée à son parcours. Et dans la deuxième partie, nous aborderons principalement l'œuvre du peintre à la renommée internationale. Je suggère de nous octroyer une belle pause musicale avec Chopin. Autre souhait de notre invité. Écoutons maintenant Frédéric Chopin.